Mots en piste, prochain grand journal concernant l'actualité africaine à 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 8h40 en temps universel, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix et vous êtes nombreux à nous contacter du Sénégal pour réagir à ce rapport qui était très attendu, celui de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques sous l'ancien président Macky Sall et le rapport révèle notamment que la situation des finances publiques est alarmante. Bonjour Thiam.
Ah bonjour.
Vous êtes à Saint-Louis ?
Oui, je suis à Saint-Louis.
Bien, vous disiez au Standard que c'était un scandale quand vous avez découvert le contenu de ce rapport. Vous dénoncez un scandale, vous attendez énormément maintenant de la part des autorités sénégalaises.
Ce que j'attends de la part des nouvelles autorités sénégalaises, c'est donc de procéder immédiatement à ce qui est une demande sociale, c'est-à-dire la reddition des comptes, d'essayer de situer les responsabilités, parce que vraiment, la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances c'est en quelque sorte la consternation totale chez les populations.
Ouais, alors ce
rapport est perçu comme un coup de massue sur la tête des Sénégalais. Il révèle l'existence de pratiques très malhonnêtes, violentes, et la loi et la réglementation en matière de finances publiques.
Ouais. Je précise que non seulement effectivement la dette du Sénégal est beaucoup plus importante que prévu, mais le rapport souligne effectivement de nombreuses irrégularités financières. D'ailleurs, vous l'avez certainement suivi, Thiam, le ministre de la Justice a pris la parole hier. Il a annoncé le lancement de plusieurs enquêtes, justement pour faire toute la lumière. Et vous êtes surpris, vous, par le contenu de ce rapport ? Est-ce que ça vous surprend ? Parce que lorsque Macky Sall a quitté le pays, il disait que la situation financière du Sénégal était plutôt bonne.
Moi, en tout cas, je suis plus que surpris par cette situation laissée. Parce que c'est en quelque sorte un carnage financier qui a de lourdes conséquences sur la situation actuelle du pays. Parce que le Sénégal, c'est un pays qui aujourd'hui devait être parmi les pays émergents.
Oui.
Vu les potentialités aussi bien humaines, aussi bien minières. Oui. Avec la découverte du pétrole, du gaz et tout.
Oui. Maintenant, effectivement, quand on voit la dette, qui est quand même très importante, elle frôle les 100% du PIB, on se dit comment les nouvelles autorités, le gouvernement d'Ousmane Sonko va pouvoir réaliser la rupture annoncée, concrétiser toutes les promesses posées sur la table avec ce fameux plan Sénégal 2050, un plan qui va coûter d'ailleurs aussi cher que la dette actuelle du pays. Ousmane, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au nord du Sénégal, à Nder exactement.
Exactement Juan.
Alors, comment avez-vous réagi à la publication du rapport de la Cour des comptes ?
Bon, au mois de septembre, moi j'avais donné une idée. J'avais dit que si c'est vrai, c'est une catastrophe. Si ce n'est pas vrai aussi, c'est une catastrophe. Alors actuellement, puisqu'on est dans un pays vraiment de droit, de justice, actuellement, c'est que la justice doit faire son travail. Parce que moi, je ne suis pas vraiment pour parler pour l'émotion, mais objectivement, cette situation-là doit être éclairée de manière juste.
D'où la nécessité de lancer des enquêtes, comme le disait hier le ministre de la Justice.
Entièrement d'accord. Cette enquête doit être vraiment mise sur place pour éclairer les Sénégalais. Parce que vraiment, sur le rapport-là, à chaque fois que je lis, je vois qu'il y a des recommandations. Et ces recommandations-là, surtout, il faut que la justice, il faut que le gouvernement, il faut que les gens qui sont vraiment, il faut situer les responsabilités, en grosso modo, et puis que le gouvernement continue de travailler. Mais on ne peut pas rester là à parler sur des situations où, véritablement, il y a des personnes habilitées à trancher sur ce débat-là, et on est là pour calomnier ou bien pour tergiverser sur des choses qui ne vont pas avancer le Sénégal.
Oui, bah en même temps, si le Sénégal se retrouve avec une dette qui représente quasiment 100% de son PIB, et qui a eu des détournements, qui a eu des manipulations de chiffres, etc., blanchiment d'argent, on comprend que ça fasse débat. Pape Malick Nour, qui fut ministre de la Jeunesse sous Macky Sall, dénonce, lui, une machination politique.
Ah oui, d'une part, il a parlé des moments où il y a des irrégularités. Alors, c'est un économiste, il fut ministre de la Jeunesse,
oui.
Il était au cœur des affaires. Donc s'il le dit de manière objective, moi je pense qu'il faut penser sur le fond du débat, sur le fond du rapport, et éventuellement situer les responsabilités. Si le pouvoir a dit vrai, ceux qui ont fauté, ceux qui ont...
Excusez-moi, c'est pas le pouvoir, c'est la Cour des comptes.
Non, je veux dire, la Cour des comptes, je veux dire, parce que cet argent-là, Juan, moi j'habite dans un village où il n'y a pas véritablement une route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a absolument rien. Et nous comptons sur ces deniers publics-là pour développer ces villages-là. Donc si c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, c'est une catastrophe. Si ce n'est pas vrai aussi, c'est une catastrophe pour le Sénégal. Donc il faut plus vite, rapidement possible, trouver des solutions, apporter des correctifs et qu'on avance.
Bon, il y a beaucoup de monde au Standard qui souhaite réagir sur la publication donc du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances durant le deuxième mandat de Macky Sall. Vous savez quoi, vous prolongerez le débat lundi. Ce sera d'ailleurs Chantal Leroux qui sera ici à ma place et vous pourrez prendre le temps de nous livrer vos réflexions, vos commentaires. Et d'ici là, évidemment, il y aura eu de nombreuses réactions, d'autant qu'au Sénégal, vous le savez, le week-end, il y a beaucoup d'émissions politiques. Les uns et les autres prendront la parole et ce sera l'occasion d'alimenter encore un peu plus le débat. Je sais que Jean patiente au Standard depuis quelques instants. Vous êtes au Gabon. Bonjour Jean.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
À Port-Gentil, vous aviez envie de nous interpeller sur le sommet de l'Union africaine qui s'ouvre demain à Addis Abeba. L'un des enjeux de ce sommet, ce sera évidemment l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Et vous disiez au Standard que l'élection de ce président, finalement, c'est pas très important.
Oui, effectivement Juan, je confirme ce que j'ai dit au Standard hier, à savoir que le fait d'élire un président de l'Union africaine qui n'a aucun pouvoir, en réalité, pour moi, c'est pas le plus important. Ce qui serait le plus important, c'est que les pays africains adoptent des résolutions communes qui vont dans le sens de la promotion de la volonté de leur population et qui vont dans le sens du renforcement de la démocratie. Mais dès l'instant où le président n'a aucun pouvoir de contrainte sur les décisions qui sont prises par les différents chefs d'État en Afrique, à ce moment-là, je ne vois pas trop l'intérêt de sa présence.
S'il fallait comparer l'Union européenne et l'Union africaine, c'est vrai que le président, en l'occurrence la présidente de la Commission de l'Union européenne, a plus de pouvoir que le président de la Commission de l'Union africaine. En même temps, il faut bien que quelqu'un préside la commission panafricaine. Là, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les coulisses, parce qu'il y a trois candidats, il y a un Kenyan, il y a un Malgache, un Djiboutien. On verra lequel des trois, évidemment, succédera à Moussa Faki Mahamat. Mais vous souhaiteriez quoi? Que le président de la commission ait donc davantage de pouvoir, mais pour cela, ça signifie que les États acceptent de céder un peu de leur souveraineté.
Effectivement, ça, il faudrait que les États acceptent de renoncer à une petite portion de leur souveraineté et s'accordent sur un minimum de principes démocratiques, que le président de la Commission sera à ce moment-là le garant du respect de ces règles-là. Mais tant qu'il s'agit juste d'élire un président, je pense que le fait qu'il y ait un chef d'État qui assure déjà la présidence tournante de l'Union européenne, de l'Union africaine, c'est tout à fait suffisant que d'avoir
en même temps,
un président qui a un rôle beaucoup plus symbolique.
Mais la commission, c'est, pour dire en français facile, c'est le gouvernement de l'Union africaine. Et donc le président de ce gouvernement sera désigné demain. On verra s'il y aura un, deux, trois tours, voire peut-être plus. On suivra ça évidemment avec l'envoyé spécial de RFI à Addis Abeba, Florence Maurice. Un dernier mot, Jean, ou vous avez dit l'essentiel ?
Oui, je pense avoir dit l'essentiel. Maintenant, à titre personnel, je souhaiterais que ce soit Raila Odinga qui soit le nouveau président de l'Union africaine.
Eh bien voilà, qui est dit Raila Odinga, le Kenyan. Eh bien, vous suivrez ça demain. Soyez vigilants sur RFI. Et à mon avis, vous serez, si vous avez l'implication RFI, vous serez informé. Vous recevrez l'information dès que le nouveau président sera élu. Bonne journée, Jean. Honoré, vous êtes à Cotonou. Bonjour.
Bonjour, Juan. Je suis à Cotonou.
Au Bénin, où la Cour constitutionnelle ne s'est toujours pas prononcée sur l'éligibilité ou non du président Patrice Talon pour un troisième mandat. Je rappelle que c'est un militant d'un parti de la majorité de la mouvance présidentielle qui a saisi la Cour pour savoir si le fait d'avoir modifié la Constitution en 2019 avait remis à zéro le nombre de mandats du président et autrement dit, savoir si Patrice Talon peut ou pas briguer un troisième mandat l'année prochaine. Et Honoré, vous avez été déçu, vous, par finalement la non-prise de décision de la Cour constitutionnelle. Honoré ?
Je pense que la Cour constitutionnelle devra siffler la fin.
Honoré,
la Cour constitutionnelle doit...
Alors je ne sais pas, vous avez un petit problème, vous pouvez parler ou pas parler, parce que si vous avez un petit souci...
Vous m'entendez moi je vous entends correctement.
Ah bah nous on vous entend assez bien, mais il y a des coupures, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc vous nous disiez, Honoré, excusez-moi.
Je disais tantôt que la Cour devra siffler la fin, il est temps que la Cour siffle la fin.
La fin de quoi ?
Et ceux qui... Il faut que la Cour soit claire. Il faut que la Cour constitutionnelle soit claire. La modification de la Constitution de 2019 ne permet pas à Patrice Talon de briguer un troisième mandat. Et Patrice Talon même l'a dit, il a été clair à toutes les occasions. Il a dit que lui, il laissera le...
Lui a dit qu'il ne souhaitait pas, qu'il n'était pas intéressé par un troisième mandat, qu'il n'avait pas envie de se représenter en 2026. Il l'a dit et il l'a redit.
Ce n'est pas qu'il n'a pas envie. Ce n'est pas qu'il n'a pas... Patrice Talon n'a pas dit qu'il n'a pas envie. Il a dit qu'il respectera la Constitution et que les deux mandats, il finit ses deux mandats, il va déposer le tablier. Il a été clair à toutes les occasions.
Bien sûr qu'il a été clair là-dessus. Personne ne vous contredit, Honoré.
Voilà. Maintenant, ceux de la majorité présidentielle qui suscitent sa candidature pour le troisième mandat, ils ne sont pas sincères avec lui. Ils ne sont pas sincères. Ils n'aiment pas Talon. Ils aiment créer la zizanie. Ils aiment semer la zizanie.
Donc pour vous, il n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle pour savoir si on a remis les compteurs à zéro en 2019 avec la révision constitutionnelle.
Même si les compteurs étaient remis à zéro, il y a une phrase fétiche qui dit dans la Constitution que nul ne peut briguer de sa vie plus de deux mandats.
Effectivement. Ça a été rajouté dans la nouvelle constitution de 2019. C'est une phrase qui a été inscrite noir sur blanc dans la constitution. Une phrase voulue d'ailleurs par le président Patrice Talon lui-même. Bonjour Constant.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Porto Novo. Avez-vous été déçu finalement par le non-verdict ou je ne sais pas comment dire les choses, mais le fait que la Cour constitutionnelle ne se soit pas prononcée sur le fond?
Bon, la Cour constitutionnelle, elle seule sait avec Talon quel rôle elle est en train de jouer. Sinon, en réalité, elle devrait prononcer que cette décision, ce recours-là que les gens se formulent à son niveau ne devrait pas normalement exister au Bénin. Ceux-là doivent être arrêtés et jetés en prison.
Qui doit être jeté en prison, Constant ?
Ceux-là qui se citent Talon de faire troisième mandat, ils doivent être arrêtés et déposés en réalité.
Oui, mais enfin, excusez-moi, Constant, tout citoyen a droit quand même de saisir la Cour constitutionnelle et de poser des questions. Alors je dis a le droit, visiblement non, puisque les juges de la Cour ont estimé que le militant en question n'avait pas la qualité de poser cette question-là à la Cour constitutionnelle. Mais de là à l'arrêter et le mettre en prison, Constant,
Le Tout-Prince, l'arrêter, parce que ce qu'il dit en réalité, il est ici en 2019 quand les gens ont révisé la Constitution. Et on a dit dedans que personne de sa vie, un Béninois de sa vie ne peut faire plus que deux mandats. Mm-hmm. Maintenant, la Constitution, elle est toujours là, intacte maintenant. Toi, tu te lèves en tant que Béninois, connaissant bien que ce mot-là se trouve toujours dans la Constitution, et tu vas vers la Cour constitutionnelle pour demander un troisième mandat à un président qui a déjà fait
donc,
deux mandats.
Donc, pour éviter de tourner en rond, Constant, vous êtes en train de nous dire que le militant en question, Bertin Covy, hein, pour le citer et le nommer, en posant cette question, lance un débat qui n'a pas lieu et un débat qui risque de déstabiliser politiquement le pays. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de nous expliquer ?
Mais c'est ça.
Bon, d'accord, bon, j'ai compris alors. J'ai compris. Bon, Constant, on passe à d'autres choses, excusez-moi, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler cette semaine et on en reparle aujourd'hui. Il y a d'autres sujets qui ne laissent pas indifférents. Les Gabonais s'impatientent au standard. Je sais qu'ils sont nombreux à souhaiter réagir à ce suspense. Alors vrai, faux suspense, bah, ils nous le diront, concernant la candidature du général Oligui Nguema. Bonjour Lady.
Bonjour Juan.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, merci. Et vous ?
Ça va, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez écouté ce matin sur notre antenne François Ndong Obiang. Il était l'invité de Christophe Boisbouvier, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il assurait que 70% des Gabonais soutiennent le général Oligui Nguema et que sa candidature était souhaitée par le peuple.
Après, on ne sait pas exactement d'où ils tiennent ces chiffres. S'ils les tiennent du référendum, d'accord, on peut comprendre, mais est-ce qu'il y a une étude qui a été réellement faite pour dire que 70% des Gabonais soutiennent ou encore désirent que le président Oligui se présente? On n'en sait rien exactement. C'est la première fois que nous allons partir aux urnes et c'est la première fois qu'il y aura vraiment des chiffres qui vont déterminer la position des Gabonais face à la personne de M. Oligui Nguema.
Donc ça veut dire que pour vous, les choses sont faites, Lady. Oligui Nguema sera candidat, déjà. Vous n'en doutez pas?
Non, je n'en doute pas. Je sais qu'il sera candidat parce que lorsqu'on regarde un peu, on va dire, en fait, il n'y a pas véritablement une personne qui est aujourd'hui capable d'assumer ou encore d'occuper ce poste-là au Gabon, être président du Gabon. Parce que déjà, lorsqu'on sait que pour être candidat, il y a beaucoup de personnes, de potentiels candidats qui se sont déjà elles-mêmes écartées. C'est-à-dire les personnes qui ont été nommées à des postes du gouvernement et des ministres, etc. Donc les nouveaux textes disent que ces personnes-là ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle à venir.
Les militaires, oui. Ça vous choque ou pas que les militaires puissent se présenter à toutes les élections qui vont permettre de clôturer cette période de transition?
Est-ce que ça me choque? Je pense que c'est un droit qui peut-être leur avait déjà été refusé pendant longtemps. Donc c'est un droit pour tout le monde de pouvoir se présenter à une élection présidentielle. Si tu as des bons projets pour ton pays, rien ne devrait t'empêcher, même pas ta profession, rien ne devrait t'empêcher de te présenter à l'élection. Voilà. Bon. Donc les militaires, non, ça ne me choque pas parce que comme je le disais, je savais déjà que M. Oligui allait se présenter et je sais qu'il va se présenter. Donc le fait qu'il y ait des petits textes comme ça qui viennent au fur et à mesure libérer le couloir dans lequel il se trouve. Donc non, je ne suis pas choquée, je sais qu'il va se présenter.
Bah écoutez, on verra ça. En tout cas, François Ndong Obiang, ce matin sur RFI, disait que le général annoncera sa candidature dans les prochains jours. En tout cas, le scrutin, lui, est prévu le 12 avril, dans un tout petit peu moins de 2 mois. Merci à tous et désolé déjà pour ceux qui patientent au standard et qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer, de prendre la parole. Mais ne vous inquiétez pas, on sera de retour lundi et c'est Chantal Leroux qui sera à ma place pour dialoguer avec vous, vous donner la parole, débattre également sur l'actualité et Chantal reviendra évidemment sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes au Sénégal sur la gestion des finances publiques pendant le second mandat de Macky Sall. Le camp en tout cas de l'ex-président dénonce une machination politique. Qu'en pensez-vous? Le standard reste ouvert, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. À suivre dans 10 minutes, priorité santé, question de femme avec Caroline Paré. Prenez soin de vous.
Banque Atlantique présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique.